pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Imran.
Bonjour Violette, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
Aujourd'hui nous allons parler des applications du GANIL, le grand accélérateur national d'ions lourds. Quel est le rôle des laboratoires qui y travaillent, qui y sont les personnes qui effectuent des recherches et quels sont les projets élaborés au sein de cet accélérateur?
Nos invités du jour pour en discuter sont Yvette Ngono Ravache, ingénieur-chercheur au CIMAP, le centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique.
Et Emmanuel Clément, chercheur au GANIL et au CNRS.
Mais bonjour. Tout de suite, notre flash avec les infos sciences de la semaine.
La semaine dernière, je vous parlais de l'émergence d'une cinquième vague de Covid-19. Cette dernière se confirme bel et bien, et notamment avec la détection en Afrique du Sud d'un nouveau variant, Omicron. L'Organisation mondiale de la santé a publié hier, lundi, une note technique résumant les connaissances sur ce nouveau variant. À ce jour, aucun décès associé au variant Omicron n'a été rapporté, mais Omicron représente un risque très élevé. En effet, il présente 32 points de mutation à la protéine Spike, ce qui est susceptible d'augmenter grandement sa contagiosité. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si cette mutation pourrait influencer la sévérité de la maladie ou un potentiel d'échappement à la réponse immunitaire. Deux cas ont été détectés au Canada, un a été confirmé en France sur l'île de la Réunion et plusieurs d'ores et déjà dans d'autres pays européens. Face à cela, les recommandations sont claires, il faut maintenir les gestes barrières et permettre l'accès le plus large à la troisième dose.
À l'hôpital de la Conception de Marseille, il sera bientôt possible de greffer à des patients une peau imprimée en 3D. Cette innovation médicale de la start-up bordelaise Poetis va voir le jour d'ici à 2022. 12 patients participeront à des essais cliniques avec des premières greffes réalisées sur des plaies simples. La production de cette peau imprimée prend environ 3 semaines. Il faut pour cela un fragment de peau du patient de quelques centimètres auquel on extrait des cellules que l'on multiplie pour fabriquer le fameux tissu. L'impression, quant à elle, se fait au laser et à l'imprimante dépose des couches de micro-gouttelettes contenant des cellules du patient. Cette technique pourrait être utilisée à l'avenir pour traiter des grands brûlés.
Vendredi 19 novembre, à Maison, à 6 km de Bayeux, un agriculteur a pris une photo rarissime. Sur ce cliché, nous pouvons apercevoir la silhouette d'une bête sauvage et probablement celle d'un loup. La semaine dernière, l'Office français de la biodiversité a confirmé que l'animal observé était bien un loup gris. Afin d'identifier la bête, des experts se sont rendus sur place et ont recueilli des empreintes et des poils pour réaliser une analyse génétique plus poussée. Celle-ci permettra notamment de démontrer si ce loup du Calvados est le même qui avait été détecté quelques semaines plus tôt dans l'Eure. C'est un fait exceptionnel car l'OFB n'avait pour le moment pas recensé de loup dans le département du Calvados. Aucune interaction avec l'homme n'a pour le moment été observée. Le loup étant un animal opportuniste, il cherche de la nourriture. Les agriculteurs doivent donc bien fermer leurs enclos.
Les premiers taxis volants se préparent à décoller au-dessus de Paris. Ce vendredi 26 novembre, la RATP et la région Île-de-France ont inauguré la zone de test dédiée à un véhicule électrique volant. Nommé City Airbus Next Gen, le taxi volant mi-drone mi-hélicoptère appartient au géant européen de l'aéronautique Airbus. Il est composé de 8 hélices électriques, lui permettant d'aller jusqu'à 120 km/h avec une autonomie de 80 km, le tout en n'émettant pas de CO2. Pouvant transporter jusqu'à 4 passagers au-dessus de la circulation, il pourrait faire son entrée dans les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Vous écoutez, c'est pas faux! Sur Radio Phoenix.
Alors le GANIL, c'est le grand accélérateur national d'ions lourds au centre de recherche en physique nucléaire qui se situe à Caen. Grâce à ses installations uniques, le laboratoire a été classé parmi les très grandes infrastructures de recherche et aide ainsi toute la communauté scientifique internationale dans ses recherches. Cependant, cette structure reste méconnue par bon nombre d'entre nous. Découvrons donc ce qui se cache derrière les murs de ce bâtiment.
Alors pour percer les mystères du GANIL, nous accueillons Emmanuel Clément. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au GANIL et au CNRS.
Tout à fait.
Et Yvette Ngono Ravache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur-chercheur en chimie au CIMAP également.
C'est ça.
Alors première question, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le GANIL, quels sont les domaines d'application du GANIL, Emmanuel ?
Alors le GANIL, c'est un grand laboratoire de recherche en sciences fondamentales. C'est sa première mission. et on dit d'ions lourds parce qu'il utilise, il accélère des ions lourds. Alors on peut penser a priori que c'est un laboratoire uniquement dédié à la physique nucléaire. Je reviendrai sur la définition de la physique nucléaire, mais en fait il faut se rappeler que le GANIL, quasiment dès sa conception, a été une installation qui avait une visée au-delà de la physique nucléaire, c'est-à-dire fournir des ions pour des communautés, alors qu'on dit vulgairement interdisciplinaires, mais c'est au sens où on fait autre chose que la physique nucléaire, la physique des matériaux, de la chimie, de la biologie. Donc la mission du GANIL, c'est de fournir à ses utilisateurs, c'est important, c'est pas un laboratoire qui est sur lui-même, c'est un laboratoire d'accueil, c'est-à-dire il doit fournir à sa communauté d'utilisateurs ce qu'on appelle des faisceaux d'ions.
C'est sa fonction principale.
Oui, c'est son, on va dire, son livrable numéro 1.
Alors, au sein du GANIL, vous tentez de percer les mystères de la matière, d'accélérer des ions lourds, mais qu'est-ce qu'un ion ?
Alors, un ion, c'est un atome auquel on a arraché des électrons. Alors, un atome, c'est ce que vous retrouvez dans ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev. Donc, un atome, c'est un carbone, un oxygène, un hélium, etc. Et dans la nature, il est a priori neutre. Neutre au sens électriquement neutre. Il n'a pas de charge électrique. Et pour ça, on a une compensation entre la charge électrique des électrons, qui sont chargés négativement, et au centre, la charge électrique des protons, qui est positif, et un noyau, un atome, on va dire, au repos, a une charge électrique équilibrée. Ce qu'on appelle un ion, c'est lorsqu'on lui ajoute ou on lui retire des électrons pour lui créer une charge électrique. C'est la définition de l'ion.
Alors, on parle... Allez-y.
Non, alors, pourquoi on veut faire des ions ?
Oui.
Parce que c'est bien beau, mais pourquoi on veut faire des ions ? Le but du GANIL, ce que je disais, c'est de livrer un faisceau, c'est-à-dire accélérer à des vitesses qui sont jusqu'à 10%, 20%, 30% de la vitesse de la lumière, des atomes. Or, la nature ne nous donne pas beaucoup de choses pour accélérer. Vous pouvez laisser tomber un atome, il faut utiliser la gravité, mais c'est tellement léger qu'on n'ira pas très vite. Donc, la seule chose qui nous reste à disposition, c'est la force électrique. Mettre un champ électrique pour accélérer de la matière. Mais un champ électrique n'a d'influence que si on a une charge électrique. Donc, si vous voulez mettre quelque chose de neutre dans un champ électrique, il ne va rien se passer. Donc, en créant un ion, vous allez créer une force d'accélération dans ce champ électrique qui peut amener cet ion de carbone, d'uranium, à des vitesses qui peuvent être 10, 20, 30% de la vitesse de la lumière.
Alors justement, on parlait d'expérimentation à faisceau, d'études des noyaux atomiques. Mm-hmm. À quoi servent les expériences qui vont être menées par l'accélération ?
Alors, le GANIL, alors je vais parler de la physique nucléaire, après Yvette fera l'autre grand pan d'activité du GANIL. Donc, notre sujet d'étude, c'est ce qu'on appelle le noyau de l'atome. Donc, dans la représentation que je vous ai donnée tout à l'heure, les électrons, alors de façon très imagée, gravitent autour de ce noyau qui est composé de protons et de neutrons. Le sujet d'étude de physique nucléaire au GANIL, c'est l'étude de ce petit objet au centre du noyau, du centre de l'atome, pardon, qu'on appelle le noyau, composé d'un nombre de protons et d'un nombre de neutrons. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on comprend vraiment comment fonctionne, qu'est-ce qui fait que ces protons et ces neutrons restent collés entre eux ? Et ça, c'est important, parce que s'ils ne se collent pas, bah en fait, on n'a pas d'atome. Si on n'a pas d'atome, il n'y a pas de chimie. Et s'il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de vie.
Et alors, Yvette, en chimie, quel va être le but principal des expérimentations à faisceau ?
Alors, je dois dire en tout premier que je suis la seule chimiste du CIMAP. Le CIMAP est un laboratoire de physique. Il y a également une partie qui s'occupe de la biologie. Donc, au niveau du CIMAP, nous avons un spectre d'études très important. Et la particularité, en fait, c'est que nous étudions l'interaction entre les ions et la matière. Ça peut être la matière diluée, donc quelques molécules dans une enceinte. Ça peut être la matière condensée. Et donc, dans la matière condensée, vous avez de la matière organique, des polymères. Ça, c'est ce que je fais. Vous avez de la matière inorganique. Vous avez de la matière d'intérêt biologique. Il y a des collègues qui travaillent avec l'ADN, qui travaillent sur le cancer. Donc, voilà.
Alors, Emmanuel, si on revient sur le GANIL, quels sont les accélérateurs dont vous disposez ? Est-ce qu'ils sont différents en fonction des ions ?
Alors, c'est le GANIL, il faut imaginer. Alors, il y a deux réponses à votre question. Il y a au GANIL aujourd'hui deux grands accélérateurs. Alors, on a ce qu'on appelle l'installation historique du GANIL, celle qui a été conçue à la fin des années 70 et mise en opération au début des années 80, qui est basée sur des cyclotrons. Et il y a la deuxième installation qui s'appelle Spiral 2, qui a été mise en service ces dernières années, qui est basée sur un complètement autre type d'accélérateur. L'installation historique, c'est une succession de cyclotrons qu'il faut imaginer comme une fusée à étages. c'est-à-dire en fonction de ce que vous voulez faire, être accéléré des ions à quelques pourcents de la vitesse de la lumière ou à des dizaines de pourcents de la vitesse de la lumière, vous allez utiliser en cascade ces cyclotrons pour livrer le faisceau aux expérimentateurs. Donc le Ganil, on va dire historique, basé sur ces cyclotrons, accélère des atomes de carbone jusqu'à l'uranium, donc quasiment tout le tableau périodique de Mendeleïev, à des vitesses de quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents de la vitesse de la lumière. Et vous avez la deuxième installation, qui s'appelle Spiral 2, qui est un accélérateur cette fois linéaire, donc on va en ligne droite. Donc ça a un avantage d'efficacité, un très haut rendement. Et Spiral 2 est focalisé sur l'accélération des ions, on va dire un peu plus léger pour le moment, entre le proton, on va dire le nickel, calcium, à des énergies un tout petit peu plus basses. Et il y a une vraie raison à ça, c'est que le programme scientifique est un petit peu différent de celui qui fait à l'installation historique. C'est la subtilité de la physique nucléaire, c'est-à-dire taper toujours plus fort et plus vite n'a pas forcément de sens. Il faut parfois taper un peu moins fort pour faire des sujets un peu différents.
Vous avez parlé d'installation historique, ça fait combien de temps que le Ganil existe ?
Alors le Ganil est un accélérateur qui a été conçu à la fin des années 70 pour rentrer dans la compétition mondiale des accélérateurs d'ions lourds. D'accord, il y avait à l'époque une grande compétition entre les États-Unis, la Russie et d'autres pays européens. Donc la France a décidé de se mettre dans cette compétition mondiale. Ça a été conçu à la fin des années 70 et mis en opération en 82 ou 83, je ne me rappelle plus exactement. J'étais à peine né, donc je ne me rappelle plus. Et depuis, le Ganil fonctionne. Depuis 40 ans, comme une horloge, en se modernisant, en se mettant à jour, en se renouvelant en permanence. On est parti pour encore... quelques belles années.
Alors, quelles sont les importantes avancées scientifiques qui ont été découvertes au Ganil ?
Alors, le Ganil, alors là, ça va être très, 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 très pointu, mais on a découvert des nouveaux isotopes, par exemple, au Ganil. Donc, un isotope, c'est vous prenez un élément chimique, carbone, l'oxygène, etc. Ça, c'est la nature chimique est définie par le nombre de protons, et vous pouvez ajouter ou enlever des neutrons à cet élément, et vous créez des chaînes isotopiques. Alors par exemple, tout le monde connaît le deuxième isotope du carbone, donc il y a le carbone 12, c'est celui que vous avez dans votre mine de crayon, et puis il y en a un autre que tout le monde connaît, qui est le carbone 14, qui est radioactif, donc il a deux neutrons supplémentaires, qui sert à la datation, par exemple, des éléments archéologiques. Et en fait, il y a une grande question dans la physique nucléaire, c'est mais jusqu'où on peut aller en fait ? Si vous prenez un carbone, est-ce que vous pouvez enlever tous les neutrons ? Et à l'inverse, jusqu'où je peux en rajouter avant que le système s'effondre ? C'est ce qu'on définit les limites d'existence des éléments chimiques, et ça c'est une sacrée bonne question. Et donc au Ganil, c'est un des axes, on a exploré ces limites-là, jusqu'où on peut aller. Donc le Ganil fait partie des laboratoires qui ont découvert des nouveaux isotopes. Il y a des choses plus encore un peu différentes. On a découvert des nouvelles radioactivités. Alors, tout le monde connaît la radioactivité normalement alpha, bêta, gamma. Mais on a découvert au Ganil des radioactivités double proton, par exemple. Et on cherche la radioactivité double neutron. C'est des exemples de résultats.
Et alors, pour trouver ces résultats, vous faites des recherches. Et est-ce que vous avez des partenaires qui soient nationaux, européens ou internationaux avec lesquels vous travaillez au Ganil ?
Alors oui, le Ganil, et comme je disais au début, c'est vraiment une installation d'utilisateurs. Donc le Ganil est a priori mis à la disposition d'une communauté. Alors c'est pas accès libre, on rentre pas comme ça. Mais en fait, c'est un temps de faisceau, un temps d'accélérateur. Donc on parle de jours, c'est-à-dire une expérience, c'est quelques jours, voire quelques semaines, mais c'est devenu rare. Où des scientifiques extérieurs viennent proposer, ils disent en gros de façon caricaturale, voilà j'ai une idée géniale, tout le monde croit qu'il a une idée géniale, et j'ai besoin pour faire ma recherche du temps de faisceau du Ganil parce que c'est le meilleur endroit pour le faire. Donc il vient défendre son programme scientifique devant un comité qui va attribuer du temps de faisceau ou pas à telle ou telle équipe. Et il n'y a absolument pas de contingent ou de ratio, a priori, tout le monde peut demander du temps de faisceau au Ganil pour défendre son programme scientifique. Et donc c'est pour ça que le Ganil a une vocation complètement internationale. Donc on a des utilisateurs qui sont nationaux, c'est des Français, des laboratoires français, ou des collaborateurs internationaux qui viennent faire des expériences au Ganil. Donc ça peut être les États-Unis, la Russie, le Japon ou quasiment tous les pays européens. Donc le Ganil, donc on n'est pas tout seul, il y a d'autres installations comme la nôtre en Europe et on essaie toujours de créer des liens entre ces installations, créer un tissu de collaboration scientifique et technique avec nos partenaires.
Et le Ganil est un centre de recherche national, il bénéficie d'un soutien de la région Normandie mais aussi de l'Union Européenne. Justement, vous êtes allé sur ce sujet, est-ce que vous travaillez avec des laboratoires à l'international ? en physique, en chimie
Alors en physique nucléaire, oui. Donc aussi bien pour, disons, des discussions scientifiques, proposer des expériences ensemble. Ça peut être aussi des collaborations qui sont techniques, c'est-à-dire construisons des instruments, des détecteurs ensemble. Ça peut être aussi des contributions d'accélérateurs sur les technologies des accélérateurs. Il y a le GANIL doit à la fois faire fonctionner son installation, il doit aussi la mettre à niveau, l'améliorer, explorer des nouveaux chemins. Et ça, tout seul, c'est impossible. Je veux dire, on est une science qui est technologique, qui coûte cher en argent, en ressources humaines, et faire tout seul, c'est impossible. Donc on collabore avec d'autres laboratoires institutionnels de recherche fondamentale, d'accélérateurs pour améliorer le GANIL, développer le GANIL.
Et en chimie, ça vous est arrivé de collaborer avec d'autres laboratoires à l'international ?
Ah oui, en matériaux, donc je préfère dire matériaux parce qu'on est un laboratoire de physique initialement. Donc en matériaux, on collabore avec des laboratoires du monde entier parce qu'en fait, on travaille un peu comme a expliqué Emmanuel, on travaille également par proposition d'expérience. Donc on a notre comité d'expérience qui note les expériences qui sont proposées. Donc la nationalité n'est pas importante là. Ce qui est important, c'est le sujet, ce qu'on va en faire. Est-ce qu'il est nouveau? Est-ce qu'il va permettre d'améliorer les connaissances dans le domaine? Et à partir du moment où il est classé, il va pouvoir recevoir du faisceau et nous, on sera là pour permettre que la manip se fasse. Donc, moi en particulier, j'ai des collaborations au Japon, au Brésil, en Allemagne, en France également. Et tous mes autres collègues ont des collaborations également internationales et nationales.
C'est-à-dire que dans d'autres laboratoires dans le monde, vous travaillez sur le même sujet que vous travaillez au CIMAP?
Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut travailler sur un domaine identique ou similaire. Je vais prendre l'exemple des polymères. Alors, les polymères, je vais juste expliquer, ce sont des matériaux qui sont composés de très longues chaînes. Et ces longues chaînes sont formées à partir de toutes petites molécules. Dans la vie courante, vous connaissez les polymères sous le nom de plastique. Alors, c'est des thermoplastiques normalement. Et les plastiques sont des polymères, mais tous les polymères ne sont pas des plastiques. Voilà, juste la parenthèse. Donc, dans le cas des polymères, il peut s'agir de savoir comment un polymère va se comporter dans un certain environnement ionisant. Alors, quand on dit ionisant, c'est un rayonnement qui peut extraire des électrons ou un électron du cortège d'un atome composant un matériau. Une personne qui travaille sur les polymères, qui veut savoir comment son matériau va réagir lorsqu'il sera mis en face des rayonnements ionisants, dans notre cas en face des ions, va me contacter. Nous allons bâtir un projet ensemble. Il va présenter le projet au PAC, donc au comité d'expérience. Une fois le projet accepté, nous allons faire l'expérience et ensuite nous allons exploiter les résultats de l'expérience, analyser, ainsi de suite. Voilà comment se passe une collaboration. Certaines collaborations commencent après la définition du sujet et d'autres commencent bien plus amont et certaines commencent au tout dernier moment parce qu'on se rend compte qu'il manque une spécificité, une qualification dans le domaine de la personne qui nous contacte et qui a besoin de notre savoir-faire ou de nos connaissances dans le domaine qui l'intéresse. Donc c'est vraiment multiniveau.
Vous restez avec nous, Yvette Ngonoravache et Emmanuel Clément. On continue la discussion après une pause musicale. Voici Métronomie avec It's Good to Be Back sur Radio Phoenix. Yeah.
C'était It's Good to Be Back de Métronomie. Vous êtes toujours dans C'est pas faux sur Radio Phoenix. Avant la pause musicale, nous évoquions les applications du GANIL et nous allons maintenant nous pencher sur un laboratoire en particulier, le CIMAP.
Alors le CIMAP, c'est le Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique. Les travaux qui sont menés sont axés sur la matière excitée et les défauts sur les matériaux et l'optique. Yvette, quels sont les sujets de recherche les plus importants qui sont menés au CIMAP?
Alors... Vous avez bien dit que vous avez vu que nous avons deux axes qui peuvent paraître orthogonaux, mais en fait ils le sont pas parce que on s'intéresse à l'interaction, on s'intéresse à la matière ou les matériaux, au rayonnement, et on s'intéresse à l'interaction entre la matière et les rayonnements. Alors ça sera la lumière pour tout ce qui concerne la photonique, c'est-à-dire la synthèse des matériaux pour les lasers ou la synthèse des matériaux pour l'émission et la conversion de la lumière. Ce que nous faisons au GANIL fait partie de du premier axe, c'est l'axe interaction rayonnement ionisant matière. Alors nous avons différents sujets. Et donc, nous avons des collègues qui s'occupent de l'interaction entre la matière diluée et les rayonnements. Donc, il s'agit de savoir comment un agrégat... Alors, un agrégat, c'est, comme son nom l'indique, c'est un groupe d'atomes. Et comment ce groupe d'atomes-là va se comporter une fois qu'on lui aura injecté une grande quantité d'énergie. L'irradiation, c'est ça. C'est le dépôt d'une grande quantité d'énergie. Comment l'atome va se comporter quand il va se désexciter? Est-ce qu'il va éclater? En combien de fragments? Et qu'est-ce qui va... pas l'atome, l'agrégat. Je vous prie de m'excuser. L'agrégat, comment l'agrégat va se comporter une fois qu'il aura reçu cette énergie? Est-ce qu'on va avoir de la pulvérisation, de la fragmentation, ainsi de suite? Donc ça, c'est le groupe AMA qu'on a de notre labo. Nous avons tous les collègues qui s'occupent de l'interaction entre les matériaux. Donc ça peut être les matériaux du nucléaire ou des matériaux pour d'autres applications. Et donc, on regarde ce qui se passe toujours après une injection d'une grande quantité d'énergie. Quels sont les défauts qui sont créés? Ce qu'on appelle les défauts, c'est toute modification de la structure du matériau. Si vous avez une structure cristalline, donc un ogre à faible distance et à grande distance. À partir du moment où un atome va être déplacé de son positionnement initial, on va appeler ça un défaut, parce que ce n'est plus l'organisation qu'il avait avant. Donc on va regarder ça. Et dans le domaine des polymères, on va s'occuper également de regarder ce qui se passe dans la chaîne. Je vous ai expliqué que donc on a les molécules, la chaîne, ainsi de suite. On va regarder ce qui se passe au niveau des molécules, au niveau de la chaîne de molécules, du polymère. On appelle ça la macromolécule. Au niveau de l'organisation des macromolécules les unes avec les autres. Et enfin, au niveau macroscopique, c'est-à-dire mécaniquement, est-ce qu'il y a un changement de propriété du matériau. Au niveau de la biologie, les collègues s'occupent essentiellement du comportement de l'ADN. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'ADN reçoit beaucoup, beaucoup d'énergie, lorsque l'ADN est irradié. Et ensuite, comment traiter les cellules cancéreuses. Donc ça, c'est leur nouvelle activité concerne l'agrothérapie, c'est le traitement des cancers, avec des faisceaux carbone accélérés. Donc, on a tout ça. Je pense que je n'ai oublié personne. Oui, il y a des personnes qui s'occupent, des collègues qui s'occupent de la surface. Qu'est-ce qui se passe en surface? Parce qu'en fonction de l'épaisseur, le comportement des matériaux peut être très différent. Un comportement surfacique peut être très différent d'un comportement volumique. Oui, je pense que j'ai tout dit.
Alors, vous êtes ingénieur-chercheur. Quelles vont être vos missions?
Alors, moi, je fais une recherche à deux étages que j'aime bien. Je fais de la recherche fondamentale. Je pourrais m'arrêter là, mais je fais également de la recherche appliquée. Alors, la différence que je fais entre les deux, donc la recherche fondamentale, c'est répondre à des questions sur des sujets, en fait, des questions que je me pose sur des sujets importants. Pour améliorer les connaissances, voilà. La recherche appliquée, c'est répondre à des problématiques actuelles, des problématiques qui se posent. Donc, je fais ces deux choses-là et je fais également de la formation par la recherche via l'encadrement des thèses et des stages, voilà, de tout niveau.
Et comment est-ce que vous avez été amené à devenir ingénieur-chercheur en physique et qu'est-ce qui, un jour, dans votre parcours vous a poussé?
Ça a commencé par un concours raté. Alors moi, au début, je voulais construire des ponts et tout, voilà. Mais je venais du Cameroun et je connaissais pas bien le milieu. En fait, je connaissais pas les écoles et tout. Donc j'ai regardé les top 5. J'ai passé des concours et le résultat n'a pas été très brillant. Et comme je faisais P-prime, donc physique en classe préparatoire, je me suis dit, puisque je ne peux pas faire ce que je voulais, allons faire ce sur quoi j'étais le moins à l'aise. C'était la chimie. Donc oui, j'aime bien me lancer des défis. C'était la chimie, donc j'ai fait l'école d'ingénieur de chimie de Clermont-Ferrand, et ensuite j'ai fait une thèse, parce que j'ai rencontré des gens qui parlaient de leur thèse. C'est qui m'a surtout plu. C'était, on est payé pour se poser des questions et pour y répondre. Yes! Ça m'a parlé. Et donc, j'ai fait ma thèse aussi à Grenoble sur des polymères, sous rayonnement ionisant, présence d'eau. Et ça m'a tellement plu que j'ai voulu continuer. J'ai eu la chance d'être embauchée au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, au CEA, pour être affectée à Caen.
Et même question pour vous, Emmanuel. Comment avez-vous fait pour devenir ingénieur-chercheur? Comment ça s'est passé?
Alors, je ne suis pas ingénieur, je suis que chercheur. Moi, je ne suis pas un très bon exemple parce que je n'étais pas un très bon élève. les classes préparatoires ne m'ont même pas pris, moi, tu vois. Donc, ils m'ont dit que j'étais trop mauvais. Donc, j'étais à la fac et en fait, je voulais construire des bateaux avant. Après, j'ai voulu faire de la biologie. Et en fait, un peu par hasard, je suis arrivé à la physique nucléaire. Et en fait, je suis arrivé à la recherche parce que, un peu côté famille, et puis surtout, il y avait ce truc de se dire, tous les jours, on va faire un truc nouveau. C'est-à-dire, je ne vais pas construire un pont, parce qu'il faut construire un pont, pour reprendre ton discours, mais, ou disons ton idée, mais c'est de dire, bah, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va faire demain, je ne sais pas trop ce que je vais trouver, peut-être que je vais trouver un truc, peut-être que je ne vais pas trouver un truc, et puis ça, ça a l'air rigolo, et puis ça, ça a l'air sympa aussi. Et en plus, on est payé pour ça, et de se dire que demain, on ne sait pas ce qu'on va faire, et ce qu'on va découvrir ou pas découvrir, c'était moi la motivation de ce renouvellement perpétuel de quelque chose de nouveau. Donc c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans. Et au milieu de la fac, au début, je voulais faire de la physique des particules au CERN. Et en fait, j'ai fait des stages là-bas et je trouvais que c'était trop gros. C'était pour moi, si j'arrivais pas à voir l'alpha et l'oméga de quelque chose. Après, j'ai fait des stages en physique atomique. J'ai travaillé sur des condensats de Bose-Einstein. C'est de la matière ultra froide qui est complètement figée. Puis là, il y avait pas assez de gens. On était tout seul sur sa paillasse. Et puis, alors, j'ai regardé, je fais, bon, entre deux, il y a la physique nucléaire. Bon, on va essayer de faire ça. Et puis, en fait, je m'y suis plus et j'y suis resté. Et puis, bah, c'est devenu mon métier.
Alors Yvette, vous travaillez au sein de l'équipe MADIR, matériaux, défauts et radiations du CIMAP. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la matière excitée et défauts ?
Alors, la matière excitée, c'est comme je disais au tout début, c'est la matière dans laquelle on a déposé une grande quantité d'énergie. Donc, la matière va partir, les atomes qui constituent la matière vont partir d'un état fondamental, donc c'est l'état tranquille, pépère, ils n'ont rien reçu, à l'état excité. Donc, c'est pas leur état naturel. Donc, ils sont perturbés. Il va falloir se dégager de ce trop plein d'énergie que les atomes ont reçu. Et en fonction des matériaux, il y a différents moyens de se dégager de cette énergie-là. Dans certains matériaux, les atomes vont être déplacés, donc ils vont prendre une place qui n'était pas la leur initialement. Dans d'autres matériaux, les polymères par exemple, on va avoir des ruptures des liaisons covalentes. Alors les liaisons covalentes, ce sont des liaisons qui s'établissent entre deux atomes qui partagent deux électrons. Donc, ces liaisons vont être cassées et le matériau va se réorganiser. Donc, on va avoir de nouveaux groupements qui vont être créés, de l'émission gazeuse, ainsi de suite. Dans la matière biologique, par exemple, on va avoir pour l'ADN des cassures de brins d'ADN. Donc, l'ADN est fait de deux brins. On peut avoir une cassure simple brin, une cassure double brin et ensuite une réorganisation. Donc, en fait, c'est étudier la réorganisation des matériaux une fois qu'ils se sont débarrassés du trop-plein d'énergie qu'on leur a fourni lors de l'irradiation.
Alors, quelles vont être les limites du GANIL, de l'accélérateur, en termes d'expérience ?
Ouh, c'est compliqué, ça. Alors, ce qui est... on travaille sur des choses qui sont extrêmement rares. D'accord, donc c'est pour prendre l'analogie, c'est tout ce qu'on veut étudier est quelque chose de très rare. Donc vous pouvez faire tourner une expérience pendant des semaines et des semaines et observer peut-être une dizaine, une centaine, on va dire, d'événements qui sont compatibles avec la science ou la recherche que vous voulez faire. Donc la matière est faite de vide. Donc un exemple, l'analogie qu'on prend souvent, c'est si vous prenez un atome, vous dites c'est un stade de foot, d'accord, avec ses gradins, etc. Dites que les électrons, c'est les spectateurs qui tournent sur les gradins. Et en fait, le noyau au centre, ça serait l'équivalent d'un petit pois dans lequel vous mettez toute la masse de votre stade au centre du petit pois. Et quand vous faites une collision d'ions, c'est que vous projetez un stade sur un autre et vous espérez que les deux petits pois arrivent à se toucher. Et juste pas rebondir, mais en plus faire quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Donc ça arrive quasiment jamais. Donc en fait, souvent, ce qui nous limite, c'est que ce qu'on veut faire est tellement rare que même après avoir irradié pendant des semaines et des semaines, on n'a toujours rien vu. Alors, soit on s'est planté, soit la nature peut être très cruelle et ce que tu pensais, en fait, c'est pas ça. Et donc, la nature te ramène à la réalité et ça n'existe pas. Ou tu t'es mal calculé, ou t'as mal fait ton travail. La limite, c'est souvent que ce qu'on veut regarder est trop rare, trop difficile, trop fugace ou noyé dans un bruit de fond qui est trop important. Et donc toutes les améliorations qu'on fait, que ce soit dans les instruments ou dans les accélérateurs, c'est essayer d'augmenter cette sensibilité, augmenter cette puissance. Alors la puissance pour nous, ça veut dire souvent des intensités, taper avec de plus en plus d'intensité de faisceau, pas forcément de l'énergie, mais plus d'intensité, plus de quantité d'ions à accélérer, ou essayer de bombarder sur des cibles de plus en plus exotiques, de plus en plus difficiles à produire. Et je dirais que la limite aujourd'hui, c'est à quel point ce qu'on cherche est rare et noyé dans un bruit de fond important.
Et vous, Yvette, est-ce que vous rencontrez des limites au CIMAP dans vos travaux ?
Ah oui, oui, oui. C'est ça qui fait avancer la science, parce que si on rencontrait jamais de limites, on n'évoluerait pas, on ferait du surplace. En fait, ça dépend de ce qu'on cherche. Parfois, l'élément ou l'événement qu'on cherche est noyé parmi d'autres événements, mais ce ne sont pas les mêmes événements que ceux décrits par Emmanuel ici. On peut rencontrer des limites qui proviennent du fait qu'on n'a pas le bon équipement pour aller chercher ce qu'on cherche à voir, pour aller voir ce qu'on cherche à voir. Parfois, si on n'a pas la bonne intensité pour induire assez de défauts pour voir. Parfois, on n'a pas assez de temps pour induire le nombre de défauts qui permettent de modifier la matière assez, d'une manière assez importante pour pouvoir voir. Il y a des limites à tout, hein, mais on ne s'y arrête pas parce qu'on contourne et on cherche à améliorer. Si c'est l'équipement qui fait défaut, on réfléchit à une autre façon d'aller voir ce qu'on cherche.
Alors si l'on est passionné de physique nucléaire, par exemple, où est-ce qu'on peut suivre, où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité du GANIL ? Est-ce qu'il y a aussi des portes ouvertes qui sont organisées ?
Alors oui, alors le GANIL est un site qui est, c'est pas complètement ouvert, hein, c'est quand même, mais c'est un site qui accueille du public. Alors on a une longue tradition d'accueil des scolaires, même d'associations, je crois qu'on a accueilli, moi une fois j'ai fait une visite pour le Rotary, je crois, et on a aussi des portes ouvertes. Alors je dois avouer que je suis pas complètement au courant si c'est encore faisable, mais un jour on y retournera, mais on l'a fait. Et le GANIL est quelque chose qui peut se visiter, donc par les comme je disais scolaires ou par ces fameuses portes ouvertes qui sont en général des événements très sympas. On a des familles entières qui viennent visiter le GANIL à 9h du matin un samedi ou un dimanche. Et on est toujours surpris par l'affluence. Moi, on dit toujours le GANIL c'est un peu obscur, c'est loin, c'est au-delà du McDo. Et en fait, il y a toujours du monde. On doit inscrire, on a des groupes qui sont pleins jusqu'à fin de la journée. Et on a des gens, moi je suis toujours surpris de voir, il y a des gens qui posent des questions absolument incroyables, qui nous remettent un peu en place des fois. Donc c'est super. Donc, venez au GANIL.
Et Yvette, au CIMAP, est-ce que vous faites aussi de la promotion de la recherche ?
Alors, nous nous associons au GANIL pour les portes ouvertes, en tout cas quand elles étaient effectives. Nous participons à la fête de la science sur le campus 2 depuis un moment. En tout cas, nous avons un stand au niveau de la fête de la science. Nous ne pouvons pas déplacer nos équipements, mais nous avons des maquettes, en fait, qui sont grossies à une certaine échelle, qui permettent de montrer le phénomène qu'on veut montrer ou l'équipement qu'on veut montrer, son utilisation et son intérêt. Donc, nous participons, oui, à tout ce qui concerne la science pour le grand public.
Eh bien, merci Yvette Ngono-Ravache et Emmanuel Clément de nous avoir parlé des applications du GANIL.
On peut retrouver toutes les informations sur le GANIL sur le site ganil-spiral2.eu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix.
Merci pour votre invitation.
Et voici l'agenda scientifique de la semaine.
L'Université de Caen organise un colloque intitulé « Transanimalisme, l'animal augmenté entre utilité et protection ». Lors de cet événement, vous pourrez débattre sur les modifications, les transformations et les adaptations à venir de l'animal d'un point de vue pluridisciplinaire et international. Pour cela, rendez-vous en ligne vendredi 3 décembre sur le site internet transanimalisme.science@conf.org.
Le 10 décembre, le GANIL organise un séminaire intitulé « Physique avec Arib ». Arib, c'est le nom de l'installation de faisceaux d'ions de basse énergie du GANIL. L'occasion de discuter de quelques études de cas axées sur la physique moléculaire, réalisées à la fois en phase gazeuse et en phase condensée.
Ce vendredi 3 décembre de 18h à 20h, l'unité de recherche Comet et l'université de Caen-Normandie proposent deux conférences grand public. L'une s'intitule « Les sciences de la vie dans l'espace » présentée par Guillemette Gauquelin Coq, responsable des sciences de la vie au CNES, le Centre National d'études spatiales, et l'autre conférence s'intitule « Mobilité et cognition sur Mars, défis et contre-mesures » présentée par Gilles Clément, directeur de recherche au CNRS. Rendez-vous donc vendredi à 18h à l'amphithéâtre Max Roba, 2 rue des Rochambelles à Caen.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux sur les applications du Ganil, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm. À 13h, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne.
Merci à Alan qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.